Audrey?
Il y a un accident si vous êtes sur Dufresne-Montmorency-Est dans l'échangeur du boulevard des Chutes, sortie de l'autoroute et accès vers l'autoroute Est. Les voies sont partiellement entravées.
Prenez soin de vous, des vôtres, des autres. À demain.
Salut!
Boulevard.
Boulevard.
Te t'y informer.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce. Portneuf. Bellechasse. Saint-Og. La Côte-de-Beaupré. Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
On a invité de ce soir le chanteur et bassiste blues rock canadien Breen Leboeuf. Comment allez-vous, M. Leboeuf?
Je vais très bien, Yannick. Puis c'est Breen. C'est toujours été Breen. M. Leboeuf, je commence à me prendre pour un autre si tu m'appelles M. Leboeuf.
Ah oui, à ce point-là?
Oui, à ce point-là.
Ben, pour les besoins de l'exercice, je vais vous appeler Breen tout au long de l'entrevue.
Yes.
C'est un plaisir de faire ça avec vous. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe avec Breen ces temps-ci?
Là, on commence notre saison de concert là, bientôt. La moitié de mon band sont sont en Floride. Les gars, ils ont peur de la neige. Ça fait que ils s'en vont au sud, ils vont être tous bronzés. Je vais avoir de l'air d'un esprit à côté d'eux. Ben, ils arrivent bientôt, puis on va répéter notre show qu'on a trimballé l'année passée. On a fait peut-être 27-28 shows.
Wow!
Présentation l'année passée dans les salles, les petits, les moyens, les grands, puis avec beaucoup de succès si on compte sur la réaction du monde. On a eu du fun, là, si tu peux pas le savoir, Yannick.
Est-ce que vous reprenez les succès de Funback?
Ça fait des années que je traîne un show de blues et de quelques tunes d'Offenbach. Puis les gens disent, c'est bon, man, j'ai bien aimé ça, mais pas assez d'Offenbach. Ça fait que là, je me suis écœuré de l'entendre, celle-là. J'ai dit, il y a que du Offenbach cette année. Puis ça a marché tellement bien que là, je suis de retour avec le même show cette année.
Puis vous avez une trentaine de spectacles déjà de bouquets?
Oui, monsieur. Oui. Puis j'ai une bonne gang. C'est des gens qui sont généreux, loyaux, super talentueux. Puis c'est une petite bande, mais ça sonne. Ça sort bien.
Breen Leboeuf, la musique est arrivée comment dans sa vie?
Là, on recule. On va reculer un petit peu. Non, j'ai toujours été fasciné par la musique. Je suis une personne qui aime ça, s'exprimer par la musique.
Ouais.
Quand j'étais petit, j'avais une collection de disques avant que je n'étais pas capable. C'était avant que je lisais pas. Ça fait que je faisais des marches sur les labels des disques, puis je faisais le DJ chez nous quand j'étais. Puis c'était des acétates, là.
Oh,
c'était,
oui,
pas
okay.
Des 60, c'était pas des 45 tours, c'était avant ça. Ça fait que ça grichait là. Comme ça quand tu vois.
Est-ce que c'était vos parents qui vous ont initié à la musique? Qu'est-ce qu'ils jouaient?
Il y avait
chez
de la
vous?
Musique chez nous. Mon père, il avait une belle voix pour chanter, puis il jouait de l'harmonica, puis il tapait du pied, puis il chantait des standards aussi des années 40. Ça fait que il y avait de la musique chez nous. Ma mère était fan de Mahalia Jackson puis du gospel. Puis mon frère aîné, 8 ans plus vieux que moi, il avait une bonne collection de musique pop, mais du bon, là, du Bobby Darin, puis du Sam Cooke, puis des affaires de même.
Vos parents faisaient quoi dans la vie?
C'était des gens bien, il avait commencé pauvre, puis il avait bâti une place pour élever une famille dans une situation raisonnable. Là. On était du middle class, on a commencé très pauvre. Mon père, il était vendeur, il vendait n'importe quoi. Il était bon, il était très bon. Puis ma mère, elle a fait bien des jobs. Elle était coiffeuse pendant un bon bout. Elle était vendeur de maisons. Elle faisait ça.
Mille et un métiers pour faire vivre ses enfants.
Oui, c'est ça.
Puis à l'intérieur de la maison.
C'est elle qui m'a envoyé aux écoles francophones en Ontario.
Ah oui?
C'est comme ça. Oui, j'ai étudié en français. Ça fait que c'était l'anglais chez nous, mais... j'ai étudié en français.
Il y a des communautés francophones en Ontario depuis des années, des années, mais est-ce qu'elle, elle était francophone aussi?
Non, irlandaise.
Irlandaise. Et pourquoi vous envoyez dans une école francophone?
Parce que elle voulait que j'aille les deux langues, puis avec le nom Leboeuf, puis mes grands-parents paternels, c'était francophone chez eux. Fait que, non, elle voulait que je continue à profiter d'être bilingue. T'sais. Puis moi, je savais pas que j'étais pour finir à faire 45-50 ans de ma vie au Québec.
Ouais.
Tu sais, quand t'es jeune, là, tu peux pas prévoir ces affaires-là. Ça fait que j'étais bien chanceux d'être éduqué en français jusqu'aux 12e année.
Puis qu'est-ce qui jouait dans la famille Leboeuf quand vous étiez jeune?
Qu'est-ce qui jouait musicalement?
Musicalement, oui.
Ah, c'était des musicals, comme je disais, du gospel, du R&B, du rock and roll, toutes sortes d'affaires qui jouaient dans la maison.
Puis votre premier instrument, vous l'avez eu à quel âge?
Moi, j'ai étudié le piano dès l'âge de 7 ans. Moi, j'avais un petit piano, là, un piano qui ne s'accordait pas, là, tu sais, un piano qui sonnait bing, bing, bing.
Ça a commencé comme ça.
Puis j'étais pas un bon élève de piano.
Non! Non.
Je jouais par oreille. Je faisais pas mes leçons, je faisais des petites toutes.
Étiez-vous un bon élève à l'école?
Pas pire, ça marchait, oui.
Puis la première fois qu'on vous a donné une guitare ou encore une basse, vous avez fait quoi avec ça?
Ah, ben une basse, là. J'ai commencé à jouer de la basse parce qu'il n'y avait pas de bassman dans le band. C'est tout simplement ça.
Tout simplement ça, oui.
Je remontais un de mes bands de jeunesse avec des copains. On était pour être trois, puis j'étais pour acheter un Hammond puis jouer de la basse à main gauche, tu sais. Mais ce qui est arrivé, c'est que une dernière minute, un de mes chums, qui était très bon claviériste, chanteur, il avait du soul, il voulait jouer avec le groupe, puis... Et je me suis dit, OK, ben, je vais m'acheter une base d'abord. Puis j'ai acheté une base. Puis quand t'es jeune, ça va vite. Hein? T'apprends vite. Ouais.
Puis vous avez. Est-ce que vous avez vécu très rapidement de votre musique, M. Leboeuf?
Ben, on faisait. J'ai joué tous les fins de semaine. On faisait des sous-sols d'église, on faisait des dance halls, on faisait toutes sortes d'affaires, des fois illégales dans les bars, tu sais, c'est des affaires de même. Mais je jouais assez constamment avec ces groupes-là, jusqu'à temps que j'ai mon premier contrat de disque à Toronto.
Brain Leboeuf, c'est-tu quelqu'un qui profitait un peu de la vie à l'époque? Parce que c'est une vie de rockstar, preniez-vous un peu d'alcool?
Je ne sais pas ce que tu veux dire, Yannick.
Ah, profitez-vous un peu de la vie, vous savez ce que je veux dire.
Mettons que, à un moment donné, tu sais, les petites bières apparaissaient une après l'autre, puis c'est comme le party poignet, puis il y avait de ça. Puis éventuellement, je me retrouvais sur un circuit de bar, ça fait, quand j'étais, c'est à Toronto, là, c'était pas mal.
Vous vous êtes amusé pas mal.
Pas mal. Puis avec Offenbach, ben c'était pas tranquille non plus.
C'était-tu une belle vie au départ pour un jeune quand vous commenciez à vivre de votre passion?
Quand on est jeune, il y en a que la vie est belle.
Ouais.
Tu sais ce que je veux dire? Parce que c'est tout du nouveau, puis on est les batteries, ça charge, puis ça décharge très vite. Puis ça fait que même avec Offenbach, on faisait comme souvent deux albums d'une année. Tu sais ce que je veux dire? Ça opérait.
Ouais.
On flânait pas, on dormait pas. Mais pour dire que j'ai fait un trajet qui était merveilleux. Comme à 20 ans, un de mes premiers gros concerts, j'ouvrais pour Janis Joplin puis Traffic.
Wow. Tu sais ce que
je veux dire? Oui, j'ai vu des affaires dans ma vie.
Mais Janis Joplin, c'est tout un monument de l'époque. Là.
Ah, c'était merveilleux de partager la scène avec.
L'avez-vous rencontré Janis Joplin?
Ben, j'étais très proche d'elle, mais je ne l'ai pas rencontré. Elle est arrivée bien, bien pactée. Ils l'ont mis dans la culotte. À 11h moins quart, elle est sortie avec une bouteille de Southern Comfort, puis a fait un show incroyable. Puis après ça, elle a disparu.
Après ça, elle a disparu.
Je ne l'ai pas rencontré. Puis... J'ai rencontré le chanteur, le gars de... c'était quoi le nom du band? 10 Years After? le Boogie Woogie Band, là.
Oui.
Puis, bon, j'ai rencontré du Joe Cocker, puis du Chuck Berry, puis, tu sais.
C'était-tu des gens qui étaient impressionnants à rencontrer? Est-ce que c'était des gens qui étaient sympathiques, qui vous regardaient des yeux, des gens terre-à-terre, ou bien c'était des superstars?
Il y en avait qui étaient décevants, puis il y en avait qui étaient charmants, puis très, très, très humbles.
Mettons,
moi, je suis fanboy, je les adore toutes, parce qu'ils ont eu, tu sais, ils étaient grands et grandes dans mes yeux. C'était, tu sais, c'était tellement inspirant d'être capable d'être dans une situation où je les rencontrais, où je partageais la scène avec, où... Tu sais, après que, tu sais, t'es à l'école quand t'es avec ces gens-là.
Mais Brain Leboeuf, mettons que je vous demande la personne que vous avez rencontrée qui était la plus incroyable, là, quelqu'un que vous respectiez déjà, un musicien, un chanteur, une chanteuse.
Ben, il y en a quelques-uns.
Ouais.
Mais il faut dire que Joe Cocker m'a impressionné par son humilité. Puis il était tellement terre à terre. Mais il y avait deux gars qui le suivaient juste pour qu'ils ne se mettent pas dans le trouble. Tu sais, gars-là. Mais il te regardait dans les yeux et t'écoutait. Tu sais.
Ouais.
Puis très, très, très fin. Puis moi, quand je l'ai rencontré au Forum de Montréal la première fois qu'on a joué ensemble, Joe Cocker il ouvrait pour Offenbach. Comprends-tu? Au Québec. Ça fait que moi, je l'ai vu sortir de ses loges, puis je shakais, je suis allé le voir, puis je l'ai pogné par la main, puis je l'ai brassé à la main, puis je disais, « Monsieur Cocker, excuse-nous, le système de son, il est pas top-notch, là, ça va être un petit peu rock'n'roll à soi. » Puis je commence à dire n'importe quoi, là. J'étais,
ouais.
J'étais tellement out, là, qu'il dit, « And you are who? » Et j'ai dit, oui, je suis le bassman du groupe Offenbach qui va jouer après vous. Puis, and your name is?
Mais quand même, il s'intéressait.
Oui, j'ai dit Breen. Puis il dit, Breen, c'est intéressant. Il dit, appelle-moi ça. J'ai dit B-E-E-N. Puis il m'a regardé dans les yeux, puis il a dit, Bean? Puis j'ai dit, non, c'est B-R-E-E-N. J'ai mal écrit mon nom. J'étais tellement comme...
Ouais, OK.
Ben, c'est ça, j'étais impressionné par tous ces gens-là.
Ben, je comprends. Moi aussi, j'aurais été impressionné à rencontrer ces monuments-là de la musique.
Oui,
puis
à mes yeux,
moi, vous en êtes un aussi, un monument de la musique. Là, que je vous parle, puis je me considère comme chanceux d'avoir la chance de vous parler, M. Brain Leboeuf. Est-ce que, parce que vous dites que vous avez eu votre premier contrat professionnel à Toronto dès l'âge de 20 ans, c'était avec qui?
Oui, avec un band appelé Chimo. Puis j'avais arrêté de jouer de la bass parce que je me pensais pas à la hauteur de jouer, de chanter pour le groupe. Ça fait que j'étais le frontman. Puis on a eu un contrat de disque aux États-Unis.
Ah oui?
Ben oui, on a sorti un album sur Epic Records. Puis ça a vendu à peu près 3000 copies. Tu sais, parce que c'était tellement... On jouait du... C'était une époque où tout le monde essayait des affaires différentes.
Ouais.
70, là, il y avait de l'expérimentation. Avec toutes sortes de musique et de substances, mettons. Puis notre musique était du jazz rock classique.
OK.
OK. Ça fait qu'on jouait juste assez de classique pour faire chier les gens de rock, puis on faisait juste assez de rock pour que les jazzeux nous respectaient pas, puis on. C'est ce que je veux dire. Au lieu de plaire à tout le monde, c'était bizarre comme musique. C'était très bon. C'était avant-gardiste. Mais en même temps, de trouver une façon de ramener les gens à écouter ça avec une ouverture d'esprit, ben c'était compliqué.
Puis vos parents, dans le processus, est-ce qu'ils vous regardaient aller parce que c'est des gens qui travaillaient extrêmement fort et tout ça, d'imaginer que leur fils pouvait faire une carrière en musique?
Il était loin de l'action, les autres, ils étaient encore dans le nord de l'Ontario.
Ouais.
Il était loin de l'action, puis mais j'avais un bon support de mes parents.
Ouais.
Ils m'encourageaient. Il croyait pas, là, tout le temps. Ma mère a commencé à penser que j'avais une vraie job quand je l'ai amené au quand la limousine l'a ramassé pour aller au Forum de Montréal, puis elle est venue au party après le show, puis elle a vu comment ça marchait. Là, elle s'est dit, OK, oh, c'était une vraie job, ça.
Elle dit, ah là, là c'est une vraie job. Ben oui.
Oui, ça, c'était une vraie job. Ça, c'est des années plus tard. Hein?
Elle devait être extrêmement heureuse. T'sais, moi, je suis père de deux garçons, puis t'sais, un jour, j'espère qu'ils auront du succès dans un domaine qui les passionne. Puis bon, pour elle, ça devait être exceptionnel.
On a-tu ça dans le cœur, hein? Ben, nos enfants, eux qui vivent une belle vie avec bien stimulant et évidemment qui leur apporte une qualité de vie tu sais, qui va leur plaire. Mais tu sais, on fait notre possible. Mes parents ont fait leur possible. Quand j'ai fait mes années de rock and roll, là, ben, si vous me voyez passer, vous disiez, je sais pas comment est-ce qu'ils t'offrent ça.
Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces années-là? Ben, vous avez oublié certains
mots. Il y a 83 qui est flou. Ouais, ouais.
83.
Ouais.
J'ai raté le 83.
Le gars qui vient me voir, il me dit Hey, Brad, salut, man. On a fumé un joint ensemble à Gaspé dans le parking de l'Arena en 83. Je fais 83, oublie ça.
Incroyable. OK. Donc, vous avez signé votre premier contrat professionnel vers 20 ans. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière?
Ben, c'était up and down. La musique, là, ce n'est pas une vie nécessairement très stable. Et des fois, c'est pas de ta faute que c'est pas stable, c'est juste la façon que ça roule.
Ouais.
Et les connexions, les opportunités, il y a beaucoup de chance là-dedans. Tu peux être très, très bon et totalement ignoré par le public ou le business. Tu peux avoir un petit talent et une grande personnalité et devenir vedette. C'est impossible de prévoir qu'est-ce qui va arriver. Mais tout ce que je dis aux jeunes, là, quand ils viennent me voir, « Oh, Monsieur Leboeuf, ils disent, qu'est-ce que vous suggérez pour un jeune? Ben, développez votre amour pour la musique, parce que des fois, c'est juste ça qui reste.
Oh.
Des fois. Des fois, c'est 5 piastres, puis ça. Puis, des fois, c'est ça qui va t'amener à la place où tu vas rencontrer quelqu'un qui va être important dans ta vie. Moi, j'ai été chanceux de rencontrer des gens qui étaient importants dans ma vie. J'ai pas fait ça tout seul. J'étais toujours un gars d'un band. Et j'étais toujours un gars d'équipe. Puis j'étais toujours un gars qui se reposait sur les talents des autres aussi. Je suis pas trop fier de le dire que, mon talent limité me permet de faire certaines affaires qui plaisent au monde. Mais de faire une présentation comme je fais maintenant avec le show « Mes blues passent plus dans la porte », ça prend une équipe. Puis les gens qui sont là sont très importants. Chacun, chacune. Et on n'est pas nombreux, mais tout le monde donne beaucoup. Ça fait que ça fait un show qui est ample, qui est fourni. Puis ça me plaît tellement de faire ce show-là, parce qu'après chaque show, je me sens comme...
Revivre?
Satisfait.
Ouais.
Satisfait. Parce que souvent, il y a de la frustration. On est dur avec soi-même. Hein? Des fois, on dit, oh non, j'ai fait une erreur. T'as fait une erreur. T'as fait 10 000 notes. T'as fait une erreur. Puis, tu sais, pas une grande affaire, là. Mais des fois, on s'accroche sur qu'est-ce qui va mal dans notre petite vie, tu sais. Puis, oh, j'ai un bobo, tu sais. Puis, c'est quand t'as une équipe qui nous soutient, puis un show où les gens chantent avec nous, puis des gens qui sortent de la salle avec des sourires dans la face, puis ils restent pour nous voir après. Tu sais ce que je veux dire? T'es satisfait.
Ouais.
T'es accompli, là. Ça devient quelque chose qui... Tu tiens à ça. Puis moi, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de shows. Mais il m'en reste-tu beaucoup de shows? Oh, je ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Et chaque show devient quelque chose d'important. Parce que j'ai encore la chance de faire ça, puis je ne l'ai pas mérité, je te le dis, là. J'aurais pu être crashé, burné, puis ça fait longtemps. J'aurais pu être tanné, j'aurais pu être blasé, j'aurais pu être affecté psychologiquement par des défaites. Il y a mille affaires qui font que les gens ne t'offrent pas jusqu'à mon âge là-dedans. OK? Il y a mille raisons d'arrêter. Mais je suis encore là et
vous
je
avez
suis
persévéré.
Très chanceux d'être là. Très chanceux.
Ben, on est chanceux de vous avoir encore aujourd'hui. Au niveau des relations personnelles, quand on est une rockstar, comment ça va? Parce que j'imagine que pour les filles, c'était assez facile de rencontrer pour vous, mais d'en conserver une pendant des années, ça devait être un peu plus rare.
OK, on va commencer avec « Il n'y a pas de rockstar chez nous ». Non, 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 non. Hey Dieu, qu'est-ce que tu prends dans ton café?
Non, mais quand vous étiez jeune, là, ça devait être incroyable. Je veux dire, on passe d'une vie ordinaire à une vie d'un gars qui est sur scène, qui joue de la bass, qui réussit bien. Ça devait être assez facile pour vous. Comment vous avez entamé cette nouvelle vie-là?
Il y a des images qui se vendent très bien, mais la réalité, c'est pas vraiment ça.
Non?
On a eu du fun! On a eu du fun. Puis on a joué souvent, assez souvent que ça nous tenait. C'est parce qu'il y a des bouts où on ne faisait pas d'argent. On faisait des gros shows. On était les derniers à se faire payer. Ça coûtait cher. Les trucks, les autobus, le back off and back. À un moment donné, on était comme une quarantaine sur la route. Tu sais ce que je veux dire? Puis on jouait dans les petites arénas. Dans toutes les blagues qui nous invitaient, ça fait que c'était plus. On rentrait pas chez nous avec un truck plein de cash, là. C'était pas ça partout. On rentrait fatigué et un petit peu brûlé, puis bien hâte d'en faire une autre run de même. C'était juste ça. Puis parce que c'était souvent amusant, des fois hilarant. Des fois très excitant aussi. Il faut dire que quand que ça marche, un band, là, si tu aimes ça, jouer dans un band, là, ouais. C'est comme une équipe de hockey, tu sais ce que je veux dire? Quand c'est magique, là, le gars, il fait une passe par en arrière, puis l'autre est là, tu sais ce que je veux dire? Ben, la musique est de même. Des fois, là, tu joues, là, puis tu joues en fonction de ce que tu entends, puis il y a une affaire simple, soudainement, ça devient quelque chose de très puissant. Même s'il n'y a pas beaucoup de notes, même si c'est pas joué fort, mais ça devient quelque chose parce qu'il y a toutes ces entités musicales-là qui font ça rentre. Tu sais ce que je veux dire?
Oui.
Puis ça, là, quand tu fais ça, là, tu planes. Puis tu ne touches pas à terre. Tu descends de la scène, tu fais « Oh man, c'était cool! Hein? » Ou bien l'autre niaiserie de même. Mais le feeling de le faire, tu vas jouer 10 shows plates pour que ça revienne, ce feeling-là, la 11e fois, tu sais. Ça fait que c'était une machine à énergie en même temps.
Brain LeBeuf, ouais. As-tu réussi à fonder une famille?
Oui, j'ai un fils, Vincent. Il joue de la bass par oreille. Il aime la musique énormément. Il n'est pas passionné de la musique. Mais là, il est tanné de ne pas jouer des drums. Ça fait que là, je suis en train de lui monter un kit de drums.
Ah oui, à la maison, ça?
Ouais. Oui, à la maison.
Vous êtes courageux.
Non, j'ai trouvé un drum électronique.
Ah ouais?
Qui, ils en font, tu sais, les assiettes là, en plastique, tic-tic-tic, qui sont plates à jouer, mais qui sont électroniques. Mais ils en font maintenant avec des screens dessus. C'est comme un trampoline. Ça fait que ça joue comme une tête, quasiment comme une tête de drum. Ça fait que quand tu joues, puis les drums sont comme des drums. Mais il y a un piezo dedans. Ça fait que ça envoie. Là, ils sont quasiment silencieux. Tout. Très, très doux. Même les cymbales, ils sont quasiment silencieux, ils ont des trous dedans.
Fait
que tu peux toucher comme un malade, puis c'est résonant comme ça.
Puis le fils de Brain LeBeuf, as-tu été conscient de la carrière de son père?
Il vient de temps en temps au show. Ouais. Il y a des fois où il donne un bon coup de main aussi, puis c'est bien apprécié. Il est un petit peu tough dans les critiques après.
C'est les pires, hein? Nos enfants, c'est les pires pour nous
non,
critiquer.
Non, il n'est pas impressionné. Ah ouais, t'es pas mal là, t'asseoir après. Ben, tu sais, dans le deuxième set, là.
Ah ouais, ils sont comme ça.
Non, j'aime ça de même. J'aime ça de même. C'est honnête, puis souvent, c'est vrai.
Comment Offenbach est né avec Brain LeBeuf?
Mais c'était déjà installé quand moi je suis arrivé. Je ne savais même pas dans quoi j'embarquais. J'avais entendu, j'étais à Toronto, puis j'entendais un petit peu, ça jouait un petit peu à Radio FM. comme « Je suis un rocker », ça jouait. Puis la première fois que j'ai entendu Jerry, c'était « Je suis un rocker » à Radio FM. Puis je me suis dit « Ben, c'est quoi ça? C'est de la vieille musique de Chuck Berry, comme. » C'était pas comme, c'était une toune de Chuck Berry avec un texte en français. C'est ça, je suis un rocker. C'est vraiment, c'est pas typique d'Offenbach. C'est vraiment tiré d'une toune « I'm a rocker » de Chuck Berry. Ça fait que j'entendais ça, mais je disais « Mais le gars qui chante ça, c'est quelque chose, son affaire. » Puis, j'étais charmé par le fait que c'était pas un band qui était à la course à la mode ou au hit. C'était pas... Il était pas un... Il composait pour composer. Il chantait pour chanter. C'était de la simplicité pure et simple. Puis moi, j'étais dans... À l'époque, j'étais dans des bandes avec bien des boucles d'oreilles puis des coupes de cheveux punk. Puis,
des culottes trop serrées. Hein? Des culottes
ben,
trop serrées.
Je pesais à peu près 110 livres. Mais ouais, bien serré. Des bottes à haut talon. Tout le kit, tu sais ce que je veux dire? Ça ouais. Fait que... Oui, ça fait que je ne futais pas pantoute. À part que j'avais ma formation de musique pop, c'était un petit peu un parallèle à ce que Jerry avait vécu. Jerry il avait fait dans les clubs, il faisait du R&B dans les années 60. Uh-huh. Puis moi, je faisais du R&B dans les années 60. Ça fait qu'on chantait la même tune, c'est juste que Jerry, il ne savait pas qu'est-ce qu'il chantait. Il faisait des sons.
Il faisait des sons.
Des textes. Ça fait qu'on avait un petit jeu dans le char qu'on jouait. Ou quand on se promenait, je lui demandais, Jerry, chante-moi donc la toune de Sam and Dave, là, de tu sais, Hold on, I'm coming. Puis lui, il chantait la toune. Puis il n'y avait pas un vrai mot dedans, là. C'était tout du onomatopée. Moi, j'ai pissé dans mes culottes. Je trouvais ça tellement drôle.
Mais là, vous étiez à Toronto, vous entendez?
Lui, il me regardait. Ouais. Moi, lui, il me regardait un petit peu, tu sais, un petit peu frustré. Avec un celui de poids, là, j'ai dit, ben, c'est ça, les vrais mots. J'ai chanté à toi. Puis là, lui, il partait aller.
Il ne comprenait pas. Vous étiez à Toronto, vous entendez Jerry Boulay au travers de la radio FM.
Oui.
Comment vous avez fait pour joindre le band?
Ben, c'était bien bizarre. Moi, je jouais avec un batteur, on l'appelait Yum Yum. Son nom était... comment j'ai oublié? Sur son... Yum Yum. C'était son... Il jouait avec Pagliaro à un moment donné. Ouais. Puis il y a eu une petite rencontre avec un policier qui n'a pas payé. Ça fait qu'il a fait un petit peu de temps à Coinsville. Puis après ça, il a déménagé à Toronto. Il était tellement bon et tellement fin. C'est juste qu'il était un petit peu illégal ses bords. Mais un super fille. Un bon drummer. Ça fait que notre band, on crevait de faim. On avait un super bon band. Full rockstar. Pas de gig. Ça fait que nos amis nous ont dit, ben, il y a un band québécois qui joue au Piccadilly Tube sur Yonge Street, puis il n'y a pas de monde. Ça fait que si tu rentres là-dedans, tu parles au gérant, là, ils vont écrire ça dehors. Puis ça va donner au moins la moitié de la semaine, là, une paye, tu sais, parce qu'on crevait de faim, là. On était dans un creux, là, tout le monde. C'était juste après d'autres projets, ça fait que tout le monde était entre deux, tu sais. Ça fait que moi et Yum Yum, on est allé pour essayer de piquer un job à Offenbach. Tu sais. Puis j'avais encore couché un rocker dans l'oreille. Puis je rentre à la place, puis c'était le quatuor, mais la guerre avait pogné entre les gars. Mais la musique était bonne. C'était super. Puis le petit bonhomme avec la chevelure en arrière du bétoir, là j'étais fixé là-dessus. Je lui disais, c'est quoi qui se passe là? La voix sort de où, là? Ça n'a pas de bon sens, tu sais ce que je veux dire? J'étais fan tout de suite. Puis là, mon partner, Yum, il dit, ben, I know these guys, je les connais. Il dit, ça c'est Jerry, puis il y avait des gants blancs dans le temps, puis toute la kit. Ça fait que c'est un Québécois, l'Italien, c'est vrai que là, on passe une coupe de bière ensemble dans le break avec Jerry et Johnny, puis ça a cliqué. Puis on était pas en mesure d'aller parler au gérant. On n'était pas pour piquer le job des gars, t'es loin de chez eux. Tu sais, ça fait qu'on s'est fait des amis. Puis tout de suite avec Jerry, il y avait une complicité. Tu sais, on se sentait comme sur la même track, même si on n'était pas pareil, pantoute. Tu sais. Mais. On a vu qu'à travers les années, j'ai compris qu'on se complétait. On n'était pas pareil, puis c'était une bonne affaire. Tu sais? Puis Jerry, c'est moi puis lui, là, on se pognait jamais, même quand on n'était pas d'accord. On savait comment être pas d'accord, puis travailler avec ça. Puis c'était comme un deal qu'on avait, qu'on n'avait pas discuté ça, on n'avait pas argumenté ça. C'était, il y a un symbiose qui s'est fait dès le début. Et c'est une des seules personnes que je me suis jamais pogné avec en 13 ans
Vous n'êtes jamais pogné avec Jerry Boulet en 13 ans.
Jamais, jamais, jamais. Même j'étais là, quand je n'étais pas d'accord avec lui, puis il décidait quelque chose, puis lui, il décidait à quel il écoutait les gars dans le band, puis après ça, il avait son idée, puis c'est ce qu'on faisait. Puis j'aimais ça de même. Parce que des meetings de band, là, ça peut être long, hein? Ça peut être compliqué, puis ça peut être mêlant, puis ça peut être, tu sais, tourné en rond, puis il n'y a rien qui se fait. Ça fait que ça prend quelqu'un qui tranche, quelque part.
Voilà.
Puis il assumait ce job-là, puis c'était pas une job facile. Ça fait que, chapeau, monsieur.
Est-ce que c'est
Mais
vous qui
quand tu
avez
fais...
demandé à Offenbach d'intégrer le band ou c'est le band qui vous a approché?
Bien, le band a cherché de personnel pour remplacer des gars qui partaient. Jean Miller partait, Norm Kerr, le bassiste, partait. Ça fait que... Puis c'était le deuxième changement de personnel en dedans de 8 mois. Ça fait qu'aussitôt, quand j'ai commencé avec Offenbach, on a perdu notre deal de disque. A&M Records, on discontinue. Bien, c'était rendu à l'option. L'option, c'est quand on décide si on va prolonger un contrat. Puis ils ont décidé de pas lever l'option. Ça fait que on avait pas de contrat de disque. Puis, on était dans une situation où on avait une bande à rebâtir, puis pas de disque, pas de compagnie pour sortir un nouveau disque. Puis c'était le temps de travailler.
Et c'est lui qui vous a intégré?
Ben oui.
Tout simplement.
Je suis. J'ai décidé avec le guitariste avec lequel je jouais à Toronto, ben, Doug McCaskill, son nom. Moi et Doug, on cherchait à faire d'autres choses parce que le band marchait pas, on n'avait pas de job. Ça fait qu'on avait deux opportunités, puis une était le gérant, le représentant ontarien d'Offenbach, qui était un vieux chum, qui m'a appelé, puis il dit: Brain, you speak French? Tu veux-tu travailler à Montréal? Il dit: Ben, je ne sais pas. George, laisse-moi penser. Ça fait que là, on a décidé de faire une audition. On a appris deux albums d'Offenbach, moi et Doug. On était très vite à l'époque parce qu'on faisait du cover. On ramassait les tunes comme ça. Fait qu'on arrive à Montréal, puis on s'en va au local. Puis Jerry et Johnny étaient là avec Pierre Lavoie, le batteur qu'il y avait à l'époque. Puis Jerry a suggéré qu'on jamme du blues. Puis j'ai dit: Non, jamais du blues. J'ai dit: On va jouer des tunes d'Offenbach. Il dit: Ah ouais? T'es dans ma vue, toi, tu sais. J'ai dit: Ouais, les deux derniers albums. Let's go. Let's play. Puis, je faisais des back voice, puis tout le kit, là. J'étais préparé.
OK.
J'y avais préparé pour l'affaire. Ça veut dire que le meeting, là, entre Jerry et Johnny, c'était drôle parce que il n'y avait quasiment pas de mots qui ont été. Ils se sont regardés, puis ils ont fait: Ouais,
Ça
c'est
fait,
ça.
ouais.
Ça fait que ça avait cliqué de même. Tu me dis, c'est parti de même.
Puis est-ce que le succès d'Offenbach au Québec, ça vous a marqué?
Oui, absolument. Bien, je dirais que c'était l'élément le plus important pour la longévité de ma carrière. Parce que les gens m'ont connu à travers ça. Et j'ai pu continuer après Offenbach. Même j'ai continué avec Jerry pendant quelques années. J'ai
Ouais.
fait rando avec lui jusqu'à temps qu'il était malade. Tu sais. Mais oui, c'était énormément important en ce qui concerne. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a énormément d'ambition et je ne veux pas non plus, tu sais, des boîtes en carton ou des valises, là, c'est pas une place, c'est pas home sweet home. Ça fait que moi, j'aime ça aussi, j'ai avoir des racines, tu sais, avoir une vie, tu sais, parallèle à ce que je fais devant le monde. Puis, cette vie est très importante. Et le temps que je suis absent de la scène, c'est du bon temps aussi. C'est ce que je veux dire. Il y a une balance là pour moi qui me soutient. Ça fait que la familiarité avec le monde, ça m'a permis de faire toutes sortes de différents projets. J'ai fait une comédie musicale, j'ai rencontré Claire, j'ai eu un fils. J'ai fait Céline Dion et Jerry est venu me voir avec Céline Dion. Il n'était pas fan de Céline Dion, mais il est venu me voir.
Puis, il n'était pas fan de Céline Dion du tout?
Ben, il respectait son talent, mais c'est pas son genre de musique.
Non, c'est ça.
Il écoutait Tom Waits. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas Céline Dion pantoute.
Non, pas du tout.
C'est vrai que non, il est venu me voir après le show, puis il m'a serré la main, il me serrait jamais la main. Il m'a serré la main. Brent était très bon.
Mais c'est une différence de clientèle entre la clientèle d'Offenbach et la clientèle de Céline Dion, là.
Oh, je suis certain que le show était long pour lui.
Y avait-tu des madames qui perdaient connaissance quand Brain Leboeuf embarquait sur le stage avec Céline?
Pardon?
Est-ce qu'il y avait des madames qui perdaient connaissance quand ils voyaient Brain Leboeuf embarquer sur le stage avec Céline?
Non, mais j'étais bien reçu, c'était drôle.
Ouais.
Parce que le public à Céline, c'était familial, il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de jeunes femmes. Il y avait, tu sais, c'était clean, propre, c'était pas le rock and roll que je vivais, moi. Ça fait que le public, c'était pas le même monde pantoute, il était dans les salles. Mais il me connaissait à travers les blues, passe plus dans le pas. Ça fait que quand je faisais la toune avec Céline en duo, ben ça levait.
Ben, c'est ça.
C'était un moment dans le show. Puis, j'avais pas prévu ça. Je pensais que j'avais un job de bassiste. C'était ça l'idée. Mego m'avait donné un job de bassiste. Mais ça a morphé. J'ai fait plusieurs tunes avec elle en duo. Et même après que je n'étais plus son bassiste, elle m'appelait pour aller chanter dans ses shows. Ça fait que c'est devenu une autre affaire.
Ouais.
Et quel plaisir de chanter avec quelqu'un qui est habile de même. Ah, c'est épouvantable. Mais c'était toute une autre affaire. Tu sais, c'est complètement pour moi du frais, pas déjà fait. Tu sais. Puis évidemment, les autres musiciens, c'était tous des lecteurs. Moi, je ne suis pas un lecteur. Ça fait que Mego me donnait des cassettes.
Oh, OK.
Il me donnait des cassettes pour apprendre la musique avant. Ça fait que j'étais le premier sur la scène qui n'avait pas de chart, qui connaissait tout.
Ben, c'est bien, c'est bien. Puis est-ce que vous aviez à négocier directement avec Ronan Gelil? Est-ce qu'il s'occupait de...
René était un vieux chum.
Ouais.
Je le connaissais bien avant que je connaissais Céline. Excuse-moi. Ben oui, René, j'ai chanté avec Céline à télé quand elle avait 15 ans. C'était mes blues. Je chantais mes blues, passe plus dans la porte. Cette chanson, ça a été dans la rivière, dans mon canot, appelé mes blues, passe plus dans la porte. Et j'ai continué mon voyage. J'étais là pour faire mes blues. Puis c'était une affaire de variété. Puis Céline était là avec René. C'était encore à l'époque où elle avait chanté pour le pape. Elle n'avait pas fait Incognito et toutes ces affaires-là.
OK,
encore.
Ouais.
Ça fait que René vient me voir après les répétitions. Il vient me voir. Oui, ça te dérange-tu si la petite elle chante avec toi, c'est à tout. J'ai dit, ben oui. Eh bien, bon, on n'a pas répété. Les répétitions étaient finies. Ça fait que live à TV, on a fait un duo ensemble. Puis c'était juste des petits coups de tête comme ça. Vas-y, chante. Puis elle a fait un job merveilleux. Tu sais, elle savait comment faire déjà à 15 ans. Ça fait que je la connaissais depuis.
C'est des beaux souvenirs. Mais là, j'imagine que quand vous étiez... Bon, vous avez fait Offenbach. Là, j'imagine que quand vous étiez rendu avec Céline et tout ça, les payes arrivaient, là.
Ben là, il faisait pas de la grosse... Ils voyageaient en Taurus, eux autres. Céline puis René.
En Ford Taurus?
En Ford Taurus.
Ah,
oui,
ouais.
Monsieur. Puis, ça fait que non, c'était les producteurs qui faisaient le cash.
OK.
Le performer, ils sont toujours payés à la fin. ça fait que non, mais ça roulait, par exemple. Elle faisait des centaines de shows, tu sais. Moi, j'ai fait 210 shows avec Céline, quand même. Puis, on était bien traités. Puis, René était le style de donner un bonus quand ça jouait bien.
Ah, oui.
Oui, ah ouais, il était très bon avec son monde.
Mais Brain Leboeuf, moi, j'étais persuadé qu'à l'époque, avec Offenbach, et quand vous avez rencontré Céline, vous avez travaillé pour Céline, moi, j'étais persuadé que vous étiez devenu indépendant de fortune, rendu à ce niveau-là. Je me suis dit, sont tous
multimillionnaires. C'est des impressions qu'on essaie de projeter ça.
Ah oui.
Parce que les gens ont la tendance de sortir un respect automatique pour ce qui coûte cher et ce qui valent quelque chose monétairement. Ça fait que si tu peux présenter une image de succès, tu as gagné avant de chanter, tu sais?
Ouais.
À quelque part. C'est une carte dans ton jeu. Et il faut quand même faire des shows qui ont de l'allure, là. Il faut dire que, tu sais, il faut livrer. Mais de dire que... on était riche. Non. On était bien payé. C'était une bonne paye pour avoir. Mon fils arrivait. Ça fait que j'étais bien content d'avoir ce job-là parce qu'on jouait tout le temps.
Ouais.
On était. Ah oh, oui. On jouait des 6-7 jours de fil. Cette fille-là, elle faisait ses concerts-là 7 jours par semaine. Une machine.
Vous vous êtes promené un peu à travers le monde, j'imagine, avec des bands. C'est quoi les plus beaux endroits que vous avez, avez performé?
J'ai fait un petit peu d'Europe, simplement.
Ouais.
Ouais. Puis avec April Wine, j'ai fait les États-Unis.
Oui, ouais. C'est vrai, ben oui.
Ouais.
Les plus gros.
J'étais pas loquant avec les autres, même pas 5 ans.
Avec April Wine?
Ouais.
Ouais. Ouais. Okay.
Mais c'était plaisant, par exemple, parce que ça changeait le mal de place. Là. On jouait plein de Canadiens. J'ai vu les deux bouts du pays, puis tout ce qui était entre les deux bouts. Puis le band était populaire partout. Ça fait que c'était très agréable.
Si je vous demandais deux, trois événements là, que vous aimeriez revivre, parce que vous nous avez parlé de 1983, qui est une année assez floue pour vous. Là. Vous
j'aimerais revivre ça, juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé en 83? Mais si vous aviez à revivre deux, trois événements, là, pour nos auditeurs, là, ce serait lesquels ce soir?
C'est des affaires bizarres, hein, parce que les gros shows, oui, tous les gros shows, let's go, amène-les.
Ouais.
Mais jouer après que Joe Cocker fait la première partie, ça, c'était difficile à vivre. Hey, nervosité majeure. T'sais, il finissait avec son hit récent. You are so beautiful to me. Des hits qu'il y avait, tu sais. C'était un hit après l'autre. Et puis il y avait un band, il y avait les Water Sisters avec lui, les meilleurs choristes qu'il n'y avait pas en rhythm and blues. Ça fait que après ça, tu vas monter avec ton band de Iberville, tu sais. Je dis, oh non.
Mais en même temps, les gens ne vous percevaient pas comme ça. Ils vous percevaient comme le band de la place incroyable.
C'était notre monde.
Mais oui.
On les avait torturés pendant des années. Ça fait qu'on les avait convaincus que c'était ça. C'était ça. Puis non, il était super encourageant. Puis il faut dire qu'on était rendu à une place où Offenbach était super bon. Le band était tight. On jouait là, comme... Ah, les tunes arrivaient, boum, solide de même. Puis on avait un répertoire, on avait plusieurs albums. Quand tu as plusieurs albums, tu prends juste les goodies, tu prends juste les bonnes affaires. Ça fait que quand tu fais une heure de musique, il n'y a pas de trou là-dedans. Là. Jerry ne parlait pas. Il n'avait pas de temps de parler. Il disait merci. Puis on y allait une tune après l'autre, puis ça marchait. Puis ça commençait là, puis ça finissait là. Tu sais ce que je veux dire? C'était pas endormant pendant tout. Ça fait que, oui, on a réussi à suivre du John Mayall puis du Joe Cocker avec succès. Mais on était chez nous. Puis il faut dire que chez nous, on est bien. C'est le public québécois, il n'y en a pas d'autres.
Ouais. Est-ce que vous êtes retourné en Ontario ou vous habitez encore au Québec?
Je suis à Trois-Rivières, par exemple.
Trois-Rivières,
oui. Je retourne pour voir la famille, des amis,
ouais.
De temps en temps. C'est pas fréquent, mais je viens de faire une semaine à Toronto avec mon fils. Il a pris des vacances, puis on est allé triper avec des amis à Toronto pendant une semaine. C'est le fun. On est allé voir un show, un musical au théâtre Murbich, puis on est sorti avec ma soeur, puis la famille, tu sais. C'était très agréable.
Ouais. Est-ce que...
Je connais Toronto, j'étais là 10 ans.
Je vais vous poser la question, là. Vous me dites si je peux aller là ou pas. Ça a-tu été terrible pour vous, la perte d'un ami comme Jerry Boulet, qui est un monument pour nous autres? Pour vous, c'était votre ami personnel? C'était un de vos chums?
Je dirais que c'était un des éléments qui m'a fait sevrer de l'alcool puis des drogues. Moi, je suis sobre depuis 35 ans maintenant. Mais ça m'a fait reviser où j'étais, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, avec qui, pourquoi.
Ouais.
Toutes les questions. Moi, j'appelle ça l'âge de raison. C'est où tu réassumes la responsabilité de qu'est-ce qui t'arrive. Au lieu de bitcher, là, tu fais des listes. Oh, ils ont fait le ménage. C'est le printemps.
Ouais.
Le printemps de la vie. Ça m'a affecté énormément. La perte de Jerry était... Puis je l'ai vu venir. Puis je performais avec lui là, quand il était très malade. Là, il se shootait avec de la morphine pendant le show. Tu sais ce que je veux dire? Très malade. Puis j'étais pas surpris. Mais le jour de son décès, c'était 9h30 le matin, puis j'étais magasiné sur la Sainte-Catherine à Montréal.
Ouais.
Puis il fallait qu'il me trouve une chaise quand je l'ai entendu à la radio. Puis ça faisait des semaines que les gens m'appelaient pour savoir s'il était décédé, parce qu'il était tellement malade. Ça fait que je m'attendais au moment où... Mais tu sais, c'est comme ça. Il y a un moment de choc qui vient avec la perte de... d'un parent, d'un frère, une soeur. Puis je compte Jerry comme famille. On avait atteint... j'étais pas toujours avec lui. C'était pas ça. Mais il était toujours avec moi. Hein? Et il l'est encore. Parce qu'on partageait quelque chose qui nous était important. Puis avec joie, puis avec... tu sais. Mais la fin qui est bizarre là-dedans, c'est qu'on a juste composé une chanson ensemble. C'est mes blues passent plus d'un pas. Puis il a continué à composer, moi aussi, mais on a fait juste une tournée ensemble. C'est bizarre, hein?
Mais ça vit encore, cette chanson-là. Là. Tout le monde se souvient de cette chanson-là.
Oui, oui, oui. Puis je ne peux pas faire autrement que de penser à lui quand je la chante.
Je comprends donc. Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Breen Leboeuf, chanteur et bassiste blues rock canadien. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
Elle est maintenant députée indépendante de Saint-Laurent. Son nom, c'est Marois Risky. Est-ce que vous avez été témoin de ça à l'Assemblée nationale, des gens qui sont là pour se servir en politique?
Tantôt, vous m'avez dit des affaires peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre. Hein, vous comprenez? Je réponds de la France que j'adore. J'ai confiance en nos institutions.
Ouais.
Et je suis convaincue que les gens qui ont des pouvoirs d'enquête sont capables de relever les manquements le cas échéant.
Ça, c'est la cassette. Hein?
Oui! Et je suis convaincue que si mon avocate écoute en soi, on va dire bravo.
Elle est contente, là.
Oui.
Quel sentiment vous habite par rapport aux gens du caucus libéral? Avez-vous à un moment donné été fâché après ces gens-là qui défendaient bec et ongles Pablo Rodriguez?
Non, parce que ils n'ont pas le niveau d'information que moi j'ai.
Pourquoi ne pas leur avoir donné?
Je ne peux pas. T'sais, j'aime pas dire à mon mari.
Peut-être le prendre moins personnel, elle ne l'a pas dit à son mari.
Ben, c'est sûr.
Marceau, le matin. En semaine, 6 heures.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com. Planifiez votre consultation sans frais en détatouage pour enfin dire bye-bye tatou chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 Pour en profiter, direction cliniqueviva.com.
Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez lejustepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1% de rabais sur votre prochain modèle en location. Nouveau look, plus de techno et des paiements réduits. Passez nous voir dès aujourd'hui. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain Volkswagen vous attend.
T'as besoin de plus de temps dans ta journée, puis t'as ton permis classe 1 ou classe 3? Ça donne bien. Service alimentaire Gordon recrute. Avec une gamme d'avantages sociaux plus que complète et des horaires qui te permettent d'avoir encore plus de temps pour toi et ta famille, pourquoi tu te poses encore la question? Deviens chauffeur-livreur classe 1 ou classe 3 chez Service alimentaire Gordon. Simplifie ta vie, postule au recrutement à gfs.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Quelle belle soirée j'ai, les amis, puis j'imagine que vous avez autant de fun avec que moi avec notre invité de ce soir. C'est Breen Leboeuf, chanteur et bassiste blues rock canadien. On l'a connu pendant des années et des années. Il est toujours en vie, toujours en forme, ça c'est la bonne nouvelle. Il faisait partie du groupe rock québécois Offenbach. Monsieur Leboeuf, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
Oui, on recommence.
Là, moi, j'ai eu comme information que vous vous êtes cassé un bras à l'aéroport de Montréal, puis vous avez fait quand même votre spectacle. C'est quand même incroyable de performer avec un bras cassé quand on est bassiste. C'était-tu...
J'ai pas joué de la baisse, j'ai engagé un bassman. Parce que j'avais le choix, là.
Ouais, ben oui.
En tombant, tu sais que ça va être grave. La façon que j'ai tombé, là, ouais. Je savais pas que mes os étaient fragiles la même, mais je savais que j'étais dans. C'était pour être du trouble. Puis tout se passe dans la tête. Tu fais, oh non, cancellation. On commence le run de show. On avait encore 15 spectacles à faire à l'automne. Puis ça commençait en deux jours après.
C'est l'année passée, là.
Oui, j'arrivais d'une visite avec mon frère. Puis bang, je me dis, cancellation. J'ai dit, non, c'est pas un choix. Tu ne peux pas canceller. Les gens, ils ont leur billet, les diffuseurs, ils ont leur salle, tout le monde a fait son travail. Les musiciens s'attendent à avoir des jobs, des payes. Ça bouscule trop de monde. Ça fait que j'ai dit, l'autre option, c'est que ma gueule marche, ça fait que je peux chanter, je vais engager un bassman. Pour la première fois de ma vie, j'ai engagé un bassman.
Vous avez chanté, puis il y avait quelqu'un qui était là pour vous remplacer.
Oui, oui, il y avait mon chum Jean Boudreau qui était là pour jouer de la basse. J'étais très chanceux d'avoir quelqu'un qui avait une bonne disponibilité.
Ben oui.
C'est un gars qui joue du blues avec moi ici à Trois-Rivières. Il est très bon. Ça fait que le big Jean, il a pris la relève et j'ai fait les shows avec un bras caché dans une attelle. Puis c'était difficile. Parce que je ne conduisais plus, je ne me grattais pas le nez. C'est encombrant quand tu es droitier, quand tu casses le bras droit. Mais tu trouves toujours une façon d'accepter la situation avec une attitude positive. Ça fait que je me suis dit, ben là, je n'ai pas à jouer de la basse. Ça fait que je suis libéré de cette job-là où je travaille avec le rhythm section pour faire groover la musique. Donc, je peux m'occuper un petit peu plus des gens qui ont payé pour assister au concert. Ça fait que j'ai passé plus de temps à avoir du fun avec le monde. Ça fait que, en quelque part, c'était un autre show, mais belle fun. Puis, ça m'a donné aussi la chance de travailler mon vocal un petit peu, d'une façon un petit peu plus... conscient. Parce que des fois, là, quand tu joues un instrument et tu chantes en même temps, si tu grattes la guitare, c'est moins pire. Tu pognes un accord, tu fais jingle, jingle, jingle en rythme avec la musique, tu chantes ta mélodie. Boum, boum, boum. Mais quand tu joues une ligne et tu chantes une ligne, puis ils ne sont pas toujours sur les mêmes temps, il y a presque toujours un des deux qui est supposé d'être automatique pour donner la liberté à l'autre. Tu sais? Ou bien c'est facile ce que tu chantes d'abord, que là tu peux jazzer un petit peu. Puis moi, j'aime pas ça de jouer trop de notes à la baisse. Ça fait que normalement, tu es supposé d'avoir un automatisme. Puis cet automatisme se joint à ta performance. Le vocal et la basse vont ensemble, sont collés ensemble. Tu l'as fait comme ça pendant 40 ans, la toune, tu sais. Oups, tu déplugues la basse. Tu laisses. Il y a des nerfs là-dedans là, qui sont abandonnés. Ça fait que la toune, c'est une nouvelle toune, en quelque part, parce que tu prenais ton cue de ta basse, tu sais, ça devient une masse de notes dans ta tête qui sont organisées.
Ouais.
Puis l'organisation est fragile quand tu arrêtes de jouer l'instrument. Est-ce que je me souviens de cette toune-là? Après ça, tu sais.
Wow!
Puis il ne faut pas penser comme ça pendant qu'on chante une toune.
Hey, Breen Leboeuf, il nous reste encore quelques secondes, mais je veux vous parler de votre tournée, parce que là, vous repartez en tournée. Là. Vous n'êtes pas à l'arrêt.
J'ai les deux mains, gars. Oh, ça marche. Parfait. Ça fait que oui, je vais jouer de la basse pour l'année. On dit yes, OK, je vais jouer de la basse si tout va bien.
On peut vous voir où?
On est un petit peu partout. Vous pouvez voir les dates sur mon site breenleboeuf.ca. Spectacle. Puis la majorité sont là. Je suis en train d'uploader les dernières affaires. Mais les dates sont là, avec des raccourcis pour aller chercher des liens pour aller chercher des billets. Puis on se promène pas mal. J'essaie de faire ça où mon vieux corps peut suivre. Tu sais ce que je veux dire? Ça fait que j'aime pas ça faire de chaud de fil. Puis j'aime pas ça aller trop loin. Puis j'aime pas ça faire. Tu sais? J'essaie de garder une tâche raisonnable,
ouais.
pour être capable de donner un show et pas juste toute la vie sur la scène. « Oh man, je suis fatigué, tu sais. Je veux pas arriver de même. » Ça fait que les shows, là, je vais être présent. Puis je vais être bien content de voir le monde parce que l'année passée, j'ai eu tellement de fun là, que je pensais pas reprendre le show, mais les gens m'ont encouragé en demandant des supplémentaires. Ça fait que...
Fait que là, il y a une vingtaine de spectacles à venir pour la saison prochaine.
On va finir par une trentaine. Oui.
Une trentaine, parfait. Donc, breenleboeuf.ca.
Oui, monsieur.
Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Vous avez été énormément généreux de votre temps, monsieur Leboeuf.
Yannick, merci beaucoup pour ta patience.
Rien donc. Tout a bien été, moi.
Ben, je t'ai compté ma vie, c'est long, c'est une longue affaire.
Ouais, ben c'était l'objectif du podcast. Monsieur Leboeuf, je vous souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'aux auditeurs. Et on se reparle demain. Salut, ouais. Bye bye, merci. Bye bye.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Chapo Ben Lévy qui fête son premier anniversaire. Chapo Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapoBen.com.
Le printemps s'installe, les journées rallongent et les excuses pour une bonne bière se multiplient. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Cath. Votre arrêt pour profiter pleinement du printemps.
Le vendredi, t'as deux options. Plutôt, t'as une seule adresse. Découvre nos nouvelles soirées vendredi split à l'atelier sur Grande Allée. Au rez-de-chaussée des hits des années 80, 90 et 2000. Un band live, une piste de danse et un menu cocktail nostalgie qui goûte tes meilleurs souvenirs. À l'étage, ambiance Boiler Room, DJ en feu, Butter Service. Une seule soirée, split, tous les vendredis dès 22h, bistroatelier.com.
Vous désirez sécuriser votre piscine, embellir votre cour ou moderniser votre intérieur? Clôture Stratégique est la référence au Québec pour les clôtures de piscine, les clôtures haut de gamme et les rampes intérieures en verre. Le printemps s'installe. Planifiez votre projet dès maintenant. Clôture Stratégique avec un K.com.
Tout savoir et être diverti en fin de journée, écoute Gravel dans le retour, 14h.
C'est la vérité.
Boulevard 102.1 maintenant, 100% parlé en semaine.
À Québec.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En avril, obtenez le Maverick 2026 XLT hybride en location 60 mois à 99 $ par semaine et le F-150 STX 2026 à 119 $ par semaine en location 36 mois. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Boulevard.
Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens.
Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachin. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le Caucus avec Antonin Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine.